Vous m'entendez bien?
Super.
Vous ne serez plus jamais les mêmes une fois que vous appellerez le nom de Jésus. Écoutez les mots que je prononce. Jésus m'a sauvé. Désormais, je suis sensé. Il ne s'agit pas d'une satanée religion. Jésus a apporté la révolution. Tous les captifs sont pardonnés. Il est temps d'abattre toutes nos prisons. Pour chaque homme, pour chaque femme, il y a liberté de l'addiction. Toutes mes idoles, laissez-les partir. À tous mes démons, faites-leur savoir. Je sais que Dieu est grand. Oui. Cette citation n'est pas une nouvelle version de la Bible en français courant. Alors, ça pourrait très bien l'être. C'est un extrait des paroles d'une chanson de Kanye West, le grand rappeur, un des plus célèbres, je pense, aujourd'hui, et mari de Kim Kardashian, pour ceux qui sont fans people. Et ce que je trouvais intéressant avec cet extrait, il nous parle d'addiction, il nous parle d'idole, et en fait, il nous parle de quelque chose que l'apôtre Paul lui-même nous parlait. Et donc, je voyais un petit parallèle avec un extrait du livre des Actes qu'on peut trouver au chapitre 17, versets 16 à 34. Actes 17, versets 16 à 34. Alors, je vais vous lire ce passage. Pendant que Paul attendait Sylvain et Timothée à Athènes, il était profondément indigné de voir à quel point cette ville était pleine d'idoles. Idoles, comme ce dont parlait Kanye West. Il discutait dans la synagogue avec les Juifs et avec ceux qui reconnaissaient l'autorité de Dieu, et aussi sur la place publique, chaque jour, avec les passants. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens vinrent aussi parler avec lui. Les uns demandaient « Que veut dire ce bavard ?»« Il semble annoncer des dieux étrangers », déclaraient d'autres, en entendant Paul annoncer Jésus et la résurrection. Alors ils le prirent avec eux, le menèrent devant le conseil de l'Aréopage et lui demandèrent « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles ? Tu nous fais entendre des choses étranges. Nous aimerions bien savoir ce qu'elles signifient. » Tous les Athéniens, en effet, et les étrangers qui vivaient parmi eux, passaient leur temps uniquement à partager ou à écouter les dernières nouveautés. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, prit la parole. « Athéniens, je constate que vous êtes des gens extrêmement religieux. En effet, tandis que je parcourais votre ville et que je regardais vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel portant cette inscription. Ô Dieu inconnu. Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples construits par des mains humaines. Il n'a pas non plus besoin que les humains lui fournissent quoi que ce soit, car c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. » À partir d'un seul être humain, il a créé tous les peuples et les a établis sur la terre entière. Il a fixé pour eux le moment des saisons et les limites des régions qu'ils devaient habiter. Il a fait tout cela pour qu'ils cherchent Dieu et qu'en essayant tant bien que mal, ils parviennent peut-être à le trouver. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous existons. Ici, Paul cite un philosophe athénien, Épiménide. Paul reprend, « C'est bien ce que certains de vos poètes ont également affirmé. » Autre poète, philosophe, « Nous sommes aussi la descendance de Dieu. » Paul continue, « Puisque nous sommes sa descendance, » nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or, d'argent ou de pierre produite par l'art et l'imagination humaine. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle maintenant, tous, en tout lieu, a changé de vie. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en ressuscitant cet homme d'entre les morts. Ici, Paul parle de Jésus. Lorsqu'ils entendirent Paul parler d'une résurrection des morts, les uns se moquèrent de lui et les autres dirent « Ouais, on t'entendra parler à ce sujet une autre fois. » C'est ainsi que Paul les quitta. Et quelques personnes, pourtant, se joignirent à lui et crurent. Parmi elles, il y avait Denis, membre du conseil de l'Aréopage, une femme nommée Damaris, et d'autres encore. Alors, quel rapport entre ce texte, qui a été écrit il y a presque 2000 ans, et nous aujourd'hui ? Quel rapport entre ce que disait Kanye West et nous aujourd'hui ? Ce que je vous propose ce matin, c'est que le rapport entre Paul qui parle aux Athéniens, Kanye West qui parle à ceux qui écoutent Kanye West, et ce qu'on va essayer de voir ensemble ce matin, c'est qu'on est tous à la recherche de quelque chose à vénérer, de quelque chose à adorer. Ce que ces deux auteurs se réfèrent en termes d'idole, c'est-à-dire ce à quoi on s'attache, ce vers quoi on se tourne pour trouver du sens à notre vie, ce à quoi on attache notre cœur. Et je vous propose ensemble ce matin de voir qu'est-ce que notre culture, les apôtres, ont dû un petit peu parler dans les chants, cette nouvelle que Dieu s'intéresse tellement à nous, pas de cœur même de ce qui fait aujourd'hui la démocratie, de ce qui fait aujourd'hui la philosophie, que Paul se retrouve et qu'il discute de l'Évangile. Il est, si vous voulez, à la Sorbonne de la Grèce, ou dans un centre académique, culturel, et il va leur parler de Jésus. Mais Athènes, ce n'est pas seulement célèbre pour tous les philosophes et pour cet héritage de la démocratie que nous avons aujourd'hui. C'était aussi, et Paul nous en parle, une culture d'idoles et de vénération. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont eu la chance d'aller en Grèce et d'aller à Athènes. Moi, jamais, j'ai juste vu sur Google. Mais on voit qu'il y a énormément de temples, des temples à la déesse Athéna, au dieu Dionysos, entre autres, qui sont partout dans la ville. Et là, Paul dit, mais j'ai bien vu que vous êtes religieux, votre ville, elle est jonchée de monuments sacrés. Et tous ces monuments sacrés dans toute la ville, ils rappellent aux Athéniens ce en quoi ils doivent croire, ce à qui ils doivent donner des sacrifices, à ceux à qui ils doivent consacrer leur temps et leur pensée. Alors vous allez me dire, mais ça c'est bien beau Léa, mais bon, si tu viens le dimanche matin pour nous refaire un cours de philo et d'histoire, on aurait mieux fait de rester dans le lit et faire une grasse mat. En effet, quel est le rapport avec Nancy au XXIe siècle ? Je n'ai pas vu de temple de Dionysos ou d'Athéna en venant ici, je n'ai pas vu particulièrement de monuments sacrés. En effet, aujourd'hui, on a bien compris que Dieu n'existait pas, ou que même s'il existe, on peut largement faire sans lui. On a des smartphones, on a des cartes bancaires sans contact. Est-ce qu'on a encore besoin d'aller prier Dieu pour avoir quoi que ce soit ? Vous serez tous plus ou moins d'accord avec moi, on vit dans une culture largement séculière. Il y a beaucoup moins de religions, beaucoup moins de gens qui vont à l'église. Alors, est-ce qu'on pourrait dire il n'y a plus d'adoration ? Il n'y a plus d'idoles aujourd'hui. Peut-être que les idoles ont juste une apparence différente. Je ne sais pas si vous avez vu le film « L'étrange histoire de Benjamin Button » de David Fincher. Mais il y a une citation qui m'a marquée dans ce film. C'est ce que Benjamin Button écrit pour sa fille. Il dit ceci, « Il n'est jamais trop tard, ou dans mon cas, trop tôt, pour être ce que l'on veut être. Il n'y a pas de limite, on s'arrête quand on veut. Tu peux changer ou rester la même, Il n'y a pas de règle pour ces choses. Nous pouvons en faire le meilleur ou le pire. J'espère que tu en feras le meilleur. » Et en fait, ce que je vous propose ce matin, c'est que cette citation-là, c'est juste un exemple parmi d'autres de tout un ensemble de messages que notre culture nous donne et de ce que notre culture vénère. Vous avez peut-être vu qu'il y a une explosion de tous les livres et ressources de développement personnel. Voici quelques-uns de ces titres. « Osez être soi. Vivez votre vie en mieux. Le jour où je suis devenue moi-même. Je réinvente ma vie. Il n'est jamais trop tard pour éclore. Révèle la meilleure version de toi-même. » Etc, etc. Ça fait un peu penser à cette citation du film de Benjamin Button, comme si c'était vraiment un même message. Est-ce que parmi vous, il y a des fans de Marvel ? N'ayez pas peur, vous avez le droit. Oui, il y en a quelques-uns. L'année dernière, j'étais à Oxford et j'avais beaucoup d'amis qui étaient super fans de super-héros et qui m'ont traînée un petit peu malgré moi au cinéma pour aller voir certains des derniers films. Et un de ces films que j'ai vu, c'était Captain Marvel. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et Captain Marvel, encore une fois, on est dans ce même message. Le cœur de ce film, c'est le vrai pouvoir, c'est d'être soi-même. Il n'y a pas de plus grand super pouvoir que quand on a vraiment compris notre identité, qui on est vraiment et comment on peut se révéler. Et alors, on pourra changer le monde ou à défaut changer notre vie. Et si toutes ces choses-là, les films, les chansons, les livres, si tout ça c'était nos monuments sacrés de la culture contemporaine, qui nous donnent ce même message de ce qu'on doit vénérer, l'individu, soi-même, car nous sommes maîtres de notre destinée, nous pouvons atteindre une vraie liberté. En quelque sorte, tous ces monuments sacrés de notre culture nous invitent à une recherche de transcendance, d'absolu, de trouver du sens, mais pas dans des dieux et déesses forcément, ou peut-être dans des dieux et déesses, mais qui sont humains, nous-mêmes. Ce que nous propose Paul, quand il parle aux Athéniens, ce que nous propose Kanye West, c'est de chercher cette transcendance, cet absolu, le fait de trouver du sens dans le Dieu créateur. Paul disait « Ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, il est le Seigneur du ciel et de la terre. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. » Peut-être que ce matin, vous êtes fatigué de toujours être à la recherche d'un absolu, d'une transcendance ou de trouver du sens à votre vie en devant compter sur vos propres forces. Parce que quelque part, ils ont raison, hein, tous ces livres de développement personnel ou ces films de super-héros. Oui, on a des ressources en nous. Mais est-ce que parfois, c'est pas hyper crevant quand on vous dit « Alors, c'est quoi les études que vous voulez faire ? Alors, c'est quoi le métier que vous voulez faire ? Alors, ça y est, vous avez réussi à trouver un emploi. Alors, ça y est, vous avez trouvé un conjoint, fondé une famille. » Et toute cette pression sur nos épaules. Ce matin, Dieu t'appelle à lui abandonner tous tes efforts et à lui faire confiance à lui. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Mais il ne s'imposera pas. Il nous laisse libres. C'est comme ça qu'il nous a créés. Jésus, Dieu fait chair, nous promet de prendre sur lui notre fatigue, nos efforts, notre stress, et par son esprit, de nous montrer le chemin en nous donnant la vérité et la vie. Alors, peut-être que oui, notre culture vénère certaines choses. Peut-être qu'on peut voir dans tous nos panneaux publicitaires ou toutes les applications de sites de rencontres qu'il y a une certaine vénération du succès, de la réussite, du couple, du sexe, du plaisir, etc. etc. Mais bon, moi, ça va, je suis libre de penser et de croire ce que je veux. Je ne suis pas affectée par l'idolâtrie, par le fait d'avoir des idoles, de courir après la vénération. Mais la réalité, c'est que le cœur humain vénère. C'est juste dans son ADN. On n'a pas vraiment le choix. On vénère forcément quelque chose, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Je nous pose la question ce matin, à tous, à moi, à vous, qu'est-ce que mon cœur vénère ? En gros, quelle est l'idole vers laquelle je me tourne ? Ce truc, cette chose, cette personne vers laquelle je me tourne pour trouver du sens, pour trouver une raison de vivre, pour trouver du réconfort, pour chercher de l'aide, ou pour juste trouver le courage de me lever le matin. Un écrivain américain qui s'appelle David Foster Wallace avait écrit ceci. Voici quelque chose d'étrange et pourtant vrai. Dans les tranchées quotidiennes de la vie adulte, l'athéisme n'existe pas. Il n'y a rien de tel que de ne pas vénérer. Tout le monde vénère quelque chose. Notre seul choix, c'est ce qui fait l'objet de notre adoration. Et plus ou moins tout ce que vous adorez finira par vous dévorer. Si vous adorez l'argent et les biens matériels, si c'est là que vous cherchez le vrai sens de votre vie, alors vous n'en aurez jamais assez. Vous aurez toujours l'impression de ne pas en avoir assez. Adorez votre corps, votre beauté et votre vie sexuelle et vous vous sentirez toujours laid. Et quand le temps et l'âge commenceront à apparaître, vous mourrez 1 million de morts avant de mourir bel et bien. D'une certaine manière, nous sommes tous conscients de cette réalité. On l'a taxée de mythes, de proverbes, de clichés, le squelette de chaque grande histoire. Adorez le pouvoir et vous finirez par vous sentir faible et effrayé, et vous aurez besoin de plus de pouvoir à exercer sur les autres pour oublier votre propre peur. Adorez votre intellect, le fait d'être considéré intelligent, vous finirez par vous sentir stupide, un imposteur, toujours sur le point d'être découvert. Mais la chose insidieuse à propos de ces formes d'adoration, ce n'est pas qu'elles sont mauvaises en soi, ou que ce soit des péchés, non. Le problème, c'est qu'elles sont inconscientes. C'est notre mode par défaut. C'est le genre d'adoration dans lequel vous glissez progressivement, jour après jour, devenant de plus en plus sélectif sur ce que vous voyez et comment vous mesurez la valeur, sans jamais être pleinement conscient de ce que vous faites. Qu'est-ce que mon cœur vénère ? Et moi, ce matin, je ne viens pas devant vous en prétendant avoir tout compris à l'idolâtrie ou à l'adoration et en étant complètement exempte de tout ce que cette culture, de tout ce que nos histoires, les messages dans lesquels nous baignons pourraient avoir sur moi. Moi, pendant longtemps, une de mes idoles, ça a été le regard des autres. Ça a été... Est-ce que les gens vont m'aimer ? Est-ce que les gens vont me trouver intelligente ? Est-ce que les gens vont me trouver désirable ? Est-ce que je vais être appréciée ? Et j'ai une petite brochette de 5 amis de lycée avec qui j'ai partagé 3 ans de ma vie qui pourront en témoigner. Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment quelque chose de très très prégnant chez moi. La séduction. Il fallait que les gens m'aiment, il fallait que les gens me voient. Il fallait qu'à chaque fois que je rencontre un nouveau groupe d'amis, à chaque fois que je rencontrais une nouvelle personne, surtout, j'ai la certitude qu'il m'aime, qu'il m'approuve. Ça a été vrai pour toutes les personnes que je rencontrais, ça a été particulièrement vrai pour les garçons. Parce que oui, on vit dans cette culture où c'est quand même hyper important d'être en couple, c'est quand même super important d'avoir une vie sexuelle épanouie ou d'avoir une vie sexuelle tout court. Et je n'ai pas été exempte de cette pression-là. Et c'est pas, je n'ai pas envie du tout de me poser en tant que victime ce matin et de dire « Bouh, Tinder !» Ça n'existait peut-être déjà pas, d'ailleurs, quand j'étais au lycée. Mais « Bouh, Mythique !» ou quoi que ce soit d'autre. Non, j'ai ma propre responsabilité là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant des années, j'ai vécu, et elles pourront vous en témoigner, J'ai vécu cette course à « il faut que toujours plus de personnes m'aiment ». Et ça m'a amenée à différentes expériences avec différents garçons que aujourd'hui malheureusement, je regrette beaucoup. Mais pour vous dire que toute notre société nous donne aussi ce mensonge du plaisir. Tu crois le maîtriser et aller vers lui que quand on a envie. Mais en fait, le plaisir te contrôle. Et tu n'es pas toujours vraiment maître de tout ça. Parce que comme le disait David Foster Wallace, c'est insidieux, cette idolâtrie. On ne s'en rend pas forcément compte. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps d'entretien avec le pasteur et de discussion avec ma psy, avec mes amis, pour juste remarquer qu'il y avait cette idole qui était hyper présente dans ma vie et pour peut-être commencer à en sortir. Qu'est-ce que ton cœur vénère ce matin ? Et Paul ne présente pas en remède le judéo-christianisme, ou l'Église, ou un ensemble de règles à suivre. Et si tu fais ça, c'est bien, si tu fais pas ça, c'est pas bien. Paul ne présente pas une nouvelle religion. Écoutez ce qu'il dit. « Nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or, d'argent, ou de pierre, ou de technologie, ou d'application de rencontre, etc. » Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle tous, en tout lieu, à changer de vie, à tourner leur cœur. Il a en effet fixé un temps où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en ressuscitant cet homme d'entre les morts, Jésus. Paul présente Jésus. Et c'est ce que Kanye West un petit peu disait, quand il disait « il ne s'agit pas d'une satanée religion ». Le mot « satanée » a été un petit peu adouci. Le vrai mot dans la chanson était un petit peu plus violent, mais je me suis dit « je suis à l'église, je ne peux pas le dire ». Il ne s'agit pas d'une satanée religion. Jésus a apporté la révolution. Paul, Kanye West, moi ce matin, en tout cas j'essaye, présente Jésus. Et c'est lui la solution à l'idolâtrie, c'est lui la solution à notre cœur qui veut toujours plus, qui cherche une transcendance, qui cherche un absolu, qui cherche des réponses et qui fait ce qu'il peut en fait avec ce qu'il a pour aller chercher là où il trouve. Mais pourquoi on parle de Jésus du coup ? Hein, parce que Dieu, Jésus, c'est parfois un peu confus. Moi, il m'a fallu des années avant de comprendre le lien. Jésus, Dieu, Fils, Père, c'est pas forcément toujours évident. Dans la Bible, Jésus se présente comme étant Dieu lui-même. Un peu arrogant, si c'est pas vrai. Un peu mégalomaniaque. Mais si c'est vrai, alors ça change tout. Si Jésus était vraiment Dieu, alors en regardant Jésus, qui est un homme historique que la plupart des historiens sérieux attestent comme ayant vraiment existé et fait plus ou moins tout ce qu'il a dit qu'il faisait. Si Jésus est Dieu, alors on peut regarder à Jésus et comprendre quel est le caractère de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on voit en Jésus ? On voit un homme, un Dieu, qui prend du temps avec tout le monde. Les prostituées, les addicts, les malades, les ripoux, les riches, les pauvres, les femmes, les hommes, dans une culture où d'ailleurs tous les gens là que je viens de citer n'étaient pas forcément très bien vus. Bon, les riches et les hommes peut-être, le reste... Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que Jésus, il ne vient pas en disant « il faut que tu sois comme ceci ou comme cela ». Il ne dit pas « sois comme ceci, comme cela » ou « fais cela », il dit « suis-moi ». En Jésus, on voit un Dieu relationnel qui se fait tout à tous. On voit aussi un Dieu qui pardonne les fautes et les blessures du passé. Oui, parce qu'il y a l'événement central du christianisme qui est la croix. Ce moment où Dieu lui-même, en étant homme, prend sur lui toute notre honte, toutes nos erreurs, toutes les choses qu'on préférerait pas voir sur notre casier judiciaire de la vie. Toutes nos errances, On voit un Dieu qui souffre, qui est prêt à souffrir et donc qui comprend notre souffrance. Pas un Dieu lointain auquel on aurait besoin d'apporter des sacrifices pour que peut-être il ait notre faveur. Un Dieu qui est venu pour se sacrifier lui-même. Et donc je peux lui faire confiance. Et donc je peux avoir la force de pardonner parce que lui-même m'a pardonné et m'a montré la voie du pardon. Et donc je peux aimer parce que lui-même m'a aimé, m'aime encore et m'aide à aimer. Et c'est ma rencontre avec Jésus qui a tout changé dans ma vie, par rapport notamment à cette idole de plaire aux autres. Là encore, vous pourrez témoigner, les filles, ça n'a pas tout changé en un claquement de doigts, ça a été progressif. Mais je peux dire vraiment que ça a changé les choses. Et Paul aussi, qui parle de façon grandiloquente devant tous ces Athéniens, qui parle de Jésus, lui aussi, il savait de quoi il parlait. Parce qu'avant de rencontrer Jésus, Paul, c'était un gars assoiffé de vengeance, rempli de haine, et qui était prêt à tuer pour arriver à ses fins. Après sa rencontre avec Jésus, il a été changé de l'intérieur. Et c'est ça le merveilleux message de l'Évangile, cette bonne nouvelle dont on parle à l'Église et qui donne le sens à la foi chrétienne. Jésus qui disait lui-même, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Et chacun est libre de recevoir ou non Jésus. Là encore, Dieu ne met pas la pression. Il nous a créés libres. Pour lui, ce serait une honte à sa création et à la beauté de sa création de nous ôter cette liberté. Et peut-être que ce matin, vous vous dites « Ouais, ce truc du christianisme, pourquoi pas, mais j'ai encore tellement de questions et c'est tellement pas clair pour moi et j'aimerais bien voir un petit peu ce que les historiens et les scientifiques disent sur la résurrection parce que ça ne me semble pas super clair. » C'est OK, il n'y a pas de problème. Le christianisme est vraiment une vision du monde qui s'ouvre à l'investigation. Vous pouvez rechercher, vous pouvez le mettre au défi, vous pouvez même demander à Dieu, mais si tu es réel, fais quelque chose, quoi. Présente-toi à moi, il le prendra pas mal. Et il y a un des écrivains que je préfère, que j'ai beaucoup étudié à Oxford, parce que c'est là où lui, il a... vécu, et j'allais toujours dans un pub juste à côté de mon collège, là où cet auteur-là prenait des pintes avec son grand collègue J.R. Tolkien, C.S. Lewis. C.S. Lewis qui a donc écrit les Chroniques de Narnia, pour ceux qui ont lu les livres ou vu les films, et Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Ben, ces deux gars-là étaient chrétiens. Et en plus, du coup, d'écrire des fictions, ils étaient aussi théologiens. Et C.S. Lewis a écrit cette phrase qui dit « Le christianisme, si c'est faux, ça a zéro importance. Par contre, si c'est vrai, c'est la chose la plus importante de tout l'univers. » Et donc ce matin, peu importe ce que vous pensez, de Jésus, de Dieu, de l'Église, de Paul, de moi ou de Kanye West. Juste, je vous encourage à rechercher, si ce n'est pas encore très clair pour vous, à rechercher parce que si le christianisme c'est vraiment vrai, c'est une bonne nouvelle pour tout un chacun. Le christianisme, ce n'est pas une affaire de... croyances, de choses à ajouter sur la liste, de dire « ok, je crois en ça, je crois pas en ça » ou « je fais ci, je fais ça ». C'est même pas une histoire de « ok, il faut que je lise la Bible, là, il y a l'Église ». Peut-être, ça fait partie de ces choses, mais fondamentalement, le christianisme, c'est la personne de Jésus, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait. Et face à la personne de Jésus, il y aura plusieurs réactions. D'ailleurs, quand Paul, il parlait de Jésus aux Athéniens, il y a eu plusieurs réactions. Il y a ceux qui se sont vraiment moqués de lui, qui ont dit « Mais de quoi tu parles ? N'importe quoi ! Quelqu'un qui ressuscite !» Merci. Quelqu'un qui ressuscite des morts. Et puis, il y a ceux qui étaient un peu curieux, qui se disent « Mais si c'est vrai, ouais, peut-être que j'aimerais bien en savoir encore un petit peu plus, mais j'ai besoin de temps. » Et puis, il y a ceux qui ont été convaincus et qui ont cru. Quelle est ta réponse ce matin ? Alors, on a vu que notre culture vénère tout un tas de choses. Et notre cœur adore tout un tas de choses ou de personnes. Et l'écrivain David Foster Wallace, dont je parlais tout à l'heure, poursuivait sa citation comme ça. Le soi-disant monde réel ne vous découragera pas de fonctionner avec vos paramètres par défaut. Parce que le soi-disant monde réel des hommes, de l'argent et du pouvoir bourdonne joyeusement dans un bassin de peur et de colère et de frustration et de désir et d'adoration de soi. Notre propre culture actuelle a exploité ses forces de manière à produire une richesse, un confort et une liberté personnelle extraordinaire. La liberté d'être tous les seigneurs de nos petits royaumes de la taille d'un crâne, seuls au centre de toute création. Ce genre de liberté est attrayante. Mais bien sûr, il existe toutes sortes de libertés. Et la plus précieuse d'entre elles, vous n'en entendrez pas beaucoup parler dehors, là où la recherche du bonheur individuel et de l'accomplissement de soi prévalent. La liberté la plus riche, la plus profonde et la seule vraiment importante nécessite l'attention, la concentration et la discipline. Encore et encore, loin du glamour et des grands discours, mais dans le concret de l'existence, afin d'être vraiment capable de se soucier des autres et de se sacrifier pour eux. Ça, c'est une vraie liberté. Est-ce que nos idoles de notre cœur nous empêchent d'avoir cette liberté ce matin ? Est-ce qu'elles nous enchaînent dans quelque chose qu'on croit maîtriser, mais qui peut-être nous maîtrise ? Cette liberté dont parle cet auteur fait référence à ce dont parlait Paul. Le sacrifice ultime, le fait d'aimer tellement qu'on donne sa vie pour les autres, c'est ce qu'a fait Jésus à la croix. Là, s'est manifesté le vrai amour et paradoxalement la vraie liberté. Ce que nos idoles ne pourront pas nous donner. Parce que Tinder ne va pas se sacrifier pour moi. Ou mon job, ou mon patron, ou le pouvoir de l'argent, de la réussite, de l'amitié, de la famille, toutes ces choses-là qui ne sont pas mauvaises en soi forcément, mais qui ne nous apportent pas forcément la vie, et la vie en abondance, et le sens que l'on recherche. Ce matin, je voudrais terminer en vous invitant juste à fermer les yeux pour un temps d'introspection. Qu'est-ce que votre cœur vous dit ce matin ? Qu'est-ce que notre culture vénère ? Et est-ce que je le vénère aussi ? Qu'est-ce que mon cœur vénère ? Est-ce que ça m'apporte vraiment ce dont j'ai besoin ? Peut-être que pour certains ce matin, ce message d'un Dieu qui aime tellement, qui vous aime tellement, qu'il est venu sur terre pour se donner, peut-être que ça fait écho à quelque chose que vous ressentez avoir besoin. Peut-être que ça faisait longtemps que vous vous posiez des questions sur c'est qui ce Jésus, comment me positionner par rapport à lui. Peut-être que ce matin vous voudriez l'accepter dans votre vie. Je vous demande de garder les yeux fermés juste par respect les uns pour les autres. Mais si ce Dieu aimant, bien plus puissant que chacune de nos idoles, vous parle ce matin et vous encourage à lui donner votre vie. Je vous encourage juste à lever la main en signe clair entre vous et Dieu que vous voulez commencer quelque chose avec Jésus. Encore une fois, Dieu est proche, mais ne s'imposera pas. Je vais terminer par la prière. Seigneur Jésus, je te remercie qu'on n'a pas besoin d'être à Athènes au 1er siècle et d'entendre parler Paul pour entendre ton message. Aujourd'hui, on peut aussi ouvrir YouTube et écouter Kanye West ou d'autres qui parlent de à quel point cette rencontre avec toi vient tout changer. Et Seigneur, je te remercie parce que cette rencontre avec toi, elle a tout changé pour moi. Et il n'y a pas un jour où je me dis que j'ai fait le mauvais choix en choisissant Jésus. Et je te remercie parce que tu es un Dieu patient et tu n'attends pas qu'on soit pressé derrière toi ce matin, tu nous laisses le temps à chacun. Mais pour ceux qui ont levé la main ce matin, Seigneur, je te prie vraiment de répondre à leurs questions, toutes les questions qu'ils pourraient avoir sur toi, et de les accompagner dans ce chemin de qu'est-ce que c'est que de connaître Jésus, qu'est-ce que ça veut dire. Je te prie vraiment de bénir chaque personne ici ce matin, et de nous aider à peut-être mettre de côté nos idoles et à adorer, vénérer la seule personne qui peut vraiment nous combler. Toi, Jésus. Amen.